Malheureusement, pour différentes raisons techniques et des raisons de départ nécessaire des personnes, donc nous allons passer directement au prochain panel et nous prendrons des questions à la fin de la prochaine session. Il y a des gens qui doivent prendre leur avion. Donc, j'espère que les orateurs de ce panel pourront rester dans la salle. Hein?
So this slight change of program.
Il y a un petit changement de programme. D'abord, nous allons entendre Gianmarco Sanna, violoniste, fondateur et directeur artistique du projet Geminiani de Londres, sur l'accord de Verdi. Hier, vous avez entendu le projet Geminiani, ce qui a joué dans le concert, c'était l'orchestre qui a joué dans l'orchestre. Et comme il doit partir rapidement, donc nous allons entendre son discours maintenant. Et après, nous allons avoir la contribution, le chant populaire coréen et donc ensuite la suite des programmes. Donc il y aura assez de temps pour la discussion. Il y aura assez de temps pour la discussion à la fin.
Et
toutes les questions et toutes les pensées que vous avez pu développer après ce panel scientifique pourront être partagées avec tout le public. Donc, je vous demande de vous asseoir. Nous commençons maintenant avec le troisième panel. Je demande à Gianmarco Sanna de monter et de nous parler. Quoi?
Où sont les discours qui
disent? Je demande de... Je crois qu'il n'y en a pas.
Il n'y avait un dossier vert.
Ça, c'est quoi? Adeline Dumas. C'était le dossier de Seb qu'il a dû embarquer.
Hello.
Bonsoir. Est-ce que vous pouvez m'entendre?
Je vais essayer de trouver le Verdi.
Can you hear me?
Est-ce que vous pouvez m'entendre?
Oh, okay. So, I'm Gianmarco Sanna.
Je suis Gianmarco Sanna, fondateur et dirigeant du projet Geminiani, basé à Londres.
And
Et je vais vous parler de mon histoire en 5 minutes. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé à Londres en 1997. J'ai quitté l'Italie pour m'installer à Londres. J'étais d'abord en France, en Allemagne. Merci. J'étais en Allemagne pendant quelques mois. J'ai vécu au Portugal, en Espagne. Donc, je bougeais. Et à un certain moment, j'ai déménagé à Londres. Et de commencer un nouveau projet complètement. Je n'avais pas une idée très claire de ce que je voulais faire, mais je savais que ça devait être quelque chose de nouveau. J'avais besoin de quelque chose de réel, quelque part. Je n'étais pas sûr. Et j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, juste pour faire fonctionner ma pensée. Et j'ai commencé à voir des choses qui étaient postées sur Facebook, des gens qui publiaient des choses sur la musique, comme par exemple le diapason à 432. Je ne connaissais rien à tout cela, je n'étais pas préparé. Et j'ai commencé à approfondir. Et j'ai vu ce qu'il y avait funky music depuis 2002. Certains enregistré à 432, c'est pour le diapason à 432 Hertz. Donc, j'ai décidé d'approfondir encore. Et à un certain moment, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette tonalité de 432 pour l'accord du La? Donc, j'ai ouvert une fenêtre vers un nouvel univers et j'étais très surpris. Je me suis dit, c'est peut-être mon nouveau projet. Mais je dois connaître bien plus. C'était en 2012, il y a 4 ans. Et j'étais sûr que la musique pop, que Pink Floyd avait par exemple enregistré à 432 bien avant. Donc je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi? Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir un truc, quelque chose de vrai. Donc j'ai commencé à me questionner. Pourquoi 440, l'actuel diapason officiel? Toute ma vie, j'ai pensé que l'accord du La devait être à 440 Hertz par seconde. Donc, par exemple, la Philharmonique de Berlin, donc son accord est encore plus haut, à 446 pour le La. Donc, voilà, j'ai commencé à regarder cette question et je me suis dit, cette augmentation sans fin de l'accord doit s'arrêter. Et chaque fois sur Internet, je découvrais de plus en plus des choses, comme par exemple le fait qu'il y avait une qualité à cette fréquence. Parce qu'une chose est de dire, je joue le La à 432, mais je ne sais pas pourquoi je devrais faire ça non plus. Mais j'ai trouvé des choses très intéressantes. Des expériences, par exemple. Les soldats nazis, par exemple, Goebbels a fait des expérimentations sur des soldats, 432, 440, 450. Et il a trouvé que lorsqu'il jouait le même morceau à ces trois diapasons différents, les palpitations du corps augmentaient. Ça veut dire que le corps battait plus vite, que l'agressivité allait avec. C'est comme un taureau sauvage. Donc il s'est dit. Donc je me suis dit, alors si la fréquence a. Lui, Hitler, se disait, je vais utiliser cette puissance pour de mauvaises raisons. Mais si on peut utiliser cette puissance pour de mauvaises raisons, pour de mauvais buts, donc il y a la possibilité aussi de l'utiliser pour de bonnes raisons. Et j'ai décidé de faire ça. Et alors, pourquoi Geminiani? C'est parce qu'en 2012, c'était l'anniversaire de la mort d'un violoniste italien qui avait déménagé à Londres en 1714. Et il a été un succès parce qu'il est devenu le musicien de la cour. Et donc, j'ai voulu prendre ce nom. Parce que j'étais moi là à Londres en train de tuer, je me suis dit, ça me donnera de la chance. Alors, mais pour revenir à cette question du diapason et de la fréquence du diapason, j'ai trouvé des pages Facebook, etc. Et j'ai commencé à accorder à 432. Et pendant ces 2 jours, c'était dur de baisser le diapason comme ça. Mais en même temps, c'était différent. J'ai un violon Nicolas Lupo de la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire 250 années. Et je luttais tout le temps pour l'équilibrer, pour l'accorder. Donc, deux notes qui sont très proches vont vibrer en même temps. Et donc, si on fait ça sur 2 cordes du violon, le fait de sonner sur une, l'autre résonne aussi. Et si on l'a et donc on appelle le loup. Le loup. Et j'arrivais pas à les grands violons qui sont très connus, le Stradivarius, fait aussi un loup. Et quand j'ai commencé à accorder à 432, cet effet qu'on appelle le loup disparaissait complètement. Au départ, je me suis dit que c'est une coïncidence. Et le violon, quand même, était beaucoup plus équilibré, beaucoup plus doux. J'ai un diplôme pour jouer au violon. Et j'ai un autre diplôme un peu moins important. Normalement, je n'ai pas. Mais donc il avait un deuxième violon. Et ce violon criait.
So I decided to take another diploma in viola.
Ah, d'accord. Non, lorsqu'il jouait au violon, ça criait. J'ai décidé plutôt d'aller sur l'alto. Et ça criait aussi. Et en fait, c'était pas les instruments, c'était cette fréquence, trop haute fréquence. Donc, j'étais avec le La 432, j'étais plus heureux. De la qualité du son était mieux. Il a découvert que cette fréquence aussi n'a pas uniquement à voir avec la musique, mais on retrouve ça dans l'univers, dans la planète, du point de vue géographique. Ça apparaissait comme des coïncidences.
And I started doing this, so I started doing everything.
Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à tout faire. Jouer à 432, enseigner à 432. J'ai dû refuser de jouer avec certains orchestres et autre chose. Et je dis non parce que j'ai décidé d'un autre type de vie. Je suis plus heureux là. Donc, j'ai commencé à vivre d'une autre façon. Et maintenant, je dois dire que chaque fois que j'ai un étudiant qui doit passer un examen, et qui sont des étudiants privés, et ils viennent me voir, je leur enseigne à 432. Je les informe.
Oh my God.
Et quand je dois les préparer pour les examens à 440, ils doivent passer à 440. Et donc, du coup, je dois réaccorder leur violon à 440. Et vraiment, je reviens à ce sentiment qu'on a de criard, un sentiment d'une musique criarde. Et donc, plus tard, j'ai trouvé un autre violoniste qui est un ingénieur, violoniste ingénieur, et qui est très, très, très. Et en même temps, il fait des compétitions de moto. Notre ami a commencé à lui parler de l'accord à 432, et l'autre l'a regardé un peu. Un peu étrange. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et donc, il lui a dit non, je vous comprends. C'est parce qu'en tant qu'ingénieur, lorsqu'on veut avoir une partie, par exemple, de la moto, par exemple, on bombarde. Si on veut avoir le métal plus malléable, à ce moment-là, on bombarde ce métal avec certaines fréquences pour qu'il soit plus malléable. Et donc, j'ai commencé à découvrir l'application des fréquences pour changer.
Depending on the frequency. It's amazing. Now they are making objects.
Aujourd'hui, on fait des objets petits, on les fait voler à une certaine fréquence. Donc la question de fréquence, c'est une puissance. Beaucoup plus que ce qu'on pensait aujourd'hui, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, personne n'avait parlé de ces choses-là. Parce que chacun. Donc, chacun a sa théorie, mais le pouvoir est quelque chose de très, très, très délicat. Qui est responsable? Qui veut garder le pouvoir? Donc, évidemment, vous faites 2 plus 2, voilà. C'est ce qui arrive. Et puis, je suis très heureux. Et alors, ce projet Geminiani a commencé presque naturellement. Il faut avoir ces caméras, je pense que je veux dire, c'est donc un ensemble de cordes. Et donc, c'était le moyen idéal pour lancer ce projet. Ceux qui sont venus au concert hier soir, on peut peut-être entendre. Il y a un musicien qui était venu de Portugal, n'avait jamais joué à 432. C'est un soliste international, c'est quelqu'un de très connu. Et il est venu de Portugal pour m'aider, mais aussi pour essayer. La personne qui jouait l'alto aussi, première fois, la contrebasse aussi. Un très bon musicien. Jamais il avait joué à 432 et il était enthousiaste. Alors, au départ, c'était dur. Mais je crois qu'à la fin, c'est la seule façon. C'est la seule façon dans laquelle je peux poursuivre. Je ne me vois pas moi-même faire quoi que ce soit d'autre. Je suis là et je suis ici. Voilà. Et c'est pas parce que je suis pas ici à cause de cela, mais c'est l'autre, c'est à l'envers.
Hello.
Hello.
Donc, nous avons eu un concert fantastique hier soir, et surtout, toute la question de l'accord dans l'église, la chaleur de son que nous avons pu constater, ça a transformé les gens dans la soirée. Il y a 20 ans, l'Institut Schiller a commencé cette campagne pour l'accord de Verdi, et il y a eu beaucoup de chanteurs très fameux au niveau international qui ont signé. Et pour eux, c'est un gros problème, qui sont obligés de chanter de plus en plus aigus. À l'époque, il y en a beaucoup qui avaient signé une pétition pour réduire le diapason. Mais la vie musicale, dans son ensemble, n'a pas pris cette idée. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de milieux musicaux qui s'en prennent à cette question-là, qui l'adoptent. Donc ça devient un phénomène un peu plus social. À l'origine, c'était un mouvement presque sous couverture. C'est presque un mouvement secret. Je me suis dit, bon, je pensais qu'il y a beaucoup d'ensembles qui travaillent à 432. Et pendant une semaine, chaque jour, je cherchais 8 heures par jour. Je cherchais des groupes qui travaillaient à 432. Et donc, j'ai trouvé personne et je me suis dit, bah, c'est moi le groupe qui va lancer ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On va dans YouTube, dans Facebook, j'ai un collègue en Bulgarie, par exemple, Ivan Kanakiev, qui a un ensemble en Bulgarie, et il y a un Russe qui n'enseigne que à 432 au Brésil. À l'Italie, il y a tout un groupe de gens qui sont des fous de 432, donc ça se répand très vite. Parce que c'est ce que vous avez ressenti hier dans l'église. C'est pas parce que c'est nous qui le faisions, nous n'avions pas une technique particulière, mais une espèce de sentiment qu'on a quand on reçoit un son à la fréquence originale, parce qu'on l'appelle maintenant la fréquence originale. Et les gens commencent à réaliser ça et ils le sentent. Premier concert en 2013, nous avons fait le premier concert à Londres, comme ça. Alors, nous n'avons pas parlé parce que j'étais sûr que quelqu'un va m'assassiner dans l'étage sur scène comme étant un hérétique. Je me suis dit, les gens ne sont pas prêts à entendre ça. Donc, ce premier concert, on n'a pas préparé les gens. On ne leur a pas dit. Donc, on a essayé de l'éviter jusqu'à en savoir plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait le concert. Nous avons joué bien, rien de l'autre monde, mais à la fin du concert, arrive un vieux monsieur avec un fils et une dame, et il m'a dit ceci. Écoutez, je vais à tous les grands halls musicales chaque week-end. Je sais ce que c'est que la grande musique. Je connais la qualité. Oui, en termes de qualité, vous avez fait ici ou là. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec le son? Qu'est-ce que c'est que votre truc? Je n'ai jamais entendu un tel son. Il était réellement surpris. Est-ce que vous utilisez des cordes? Est-ce que vous avez des cordes de tripes comme les baroques, les amplums sont baroques, mais ça ne sonne pas comme ça. Et donc j'ai réalisé que je lui ai proposé on est sorti dans un pub, c'est pour discuter de ce que j'avais utilisé. Et les gens sont de plus en plus se rendent compte. Nous sommes à un moment de perception où les gens sont plus perceptibles. Les gens se réveillent à la situation. Et alors, certaines personnes deviennent agressives quand il y a des situations comme ça d'ouverture de l'esprit et veulent se bagarrer. Mais d'autres personnes se posent des questions. C'est qu'est-ce qui se passe? Ils essaient de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Et dans mon opinion, nous sommes dans un très bon moment pour ça. Il y a 20 ans, lorsque l'Institut Schiller a commencé cette expérimentation avec des noms très importants, la Tebaldi, Cappuccilli, etc., c'est énorme. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, mais j'ai entrevu ça dans un journal. J'ai vu Renata Tebaldi à la une d'un journal avec la Commission internationale la Commission nationale de musiciens qui n'ont pas accepté d'appliquer ce que Verdi avait demandé. Tout ceci était dans la presse. Et moi, j'étais au Conservatoire de Milan. Je savais qu'il y avait un scandale là qui venait de se produire, mais je ne sais pas. C'était avant l'Internet. Donc j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait un genre de scandale qui avait lieu, mais je n'ai pas été plus loin. Dans la télévision, personne n'en parlait pas, même si on achetait le journal, donc c'était la fin de l'histoire là, donc il n'y avait pas d'autres informations. Donc on était un peu coupé de tout. Ce n'était pas le temps adéquat pour que ça perce, disons. C'est pas que ça n'a pas été utile, mais aujourd'hui c'est plus un moment où ça peut plus se développer. Et je sens ça, avec les musiciens autour de moi, ils me regardent avec de gros yeux et demandent qu'est-ce que t'as fumé hier soir. Mais maintenant, c'est plus que les gens comprennent. Bon, il a peut-être raison. Je n'ai pas toute l'information pour dire non, mais il a probablement raison. Donc, il y a une espèce d'ouverture, une espèce de porte ouverte. Il y a quelque chose et ça se répand beaucoup plus vite que ce que j'aurais pu penser.
Thank you very much.
Donc merci, merci.
Thank you. Just few things. Thank you for this first.
So I just want to say that it takes.
Merci pour ce cadeau. Ça a pris un certain temps pour que les idées de Verdi, qui était un homme politique et qui s'est battu politiquement pour le faire, il serait très reconnaissant aujourd'hui de voir que finalement son idée perce. Alors je suis ultra bavard, mais je confisque ce dernier moment et il faut que je me jette dans un avion. J'aimerais juste remercier tout le monde ici, au nom de l'ensemble. L'autre violoniste aussi, je le remercie. Et chacun de vous, tous les gens qui ont permis cette conférence et ce concert d'avoir eu lieu. Donc, merci de vous joindre dans cette révolution musicale. À bientôt.